En fait, je me perds quand je parle en public. J'oublie que le temps, j'oublie tout, j'oublie même les gens qui m'écoutent. Et je me sens seul devant Dieu. Ce matin, je vais faire un partage en fait un peu spécial par rapport à ce que je fais d'habitude. C'est que je vais parler de moi. On m'a demandé d'apporter un témoignage et j'ai voulu faire un témoignage avec un petit bout de message dedans. Et j'avais pensé vous partager deux moments de ma vie. Alors le premier, je vais être court. Je vais essayer. C'est pourquoi en fait je suis devenu chrétien. Pourquoi un jour j'ai décidé de suivre Jésus-Christ. Alors, j'ai pas eu une enfance à problème. J'ai eu une enfance heureuse. Des parents qui m'aimaient, un petit frère, une petite sœur. J'ai grandi à la campagne et vraiment le vert, tout ça, à Besançon. Et pour moi, c'était une enfance belle, vraiment épanouissante. Mon papa est vietnamien et ma maman est française. Donc, bon, j'ai grandi dans ces deux cultures, même si mon père n'insistait pas trop sur le Vietnam. Parce qu'il avait dû partir à cause de la guerre. Et je pense que du coup, ça a créé un blocage en lui et il n'a pas trop partagé. Donc, j'ai grandi comme un Français, au moins dans ma tête. Et ma mère aidait bénévolement enfin, à l'église catholique. Elle était issue de familles normandes. Donc, souvent, on est catholique dans ces milieux. Et donc, j'ai assisté au catéchisme. Et bon, j'ai fait. Ma communion, ma profession de foi, là j'ai assisté au catéchisme. Et pour moi, Dieu existait, mais Dieu était loin. Et Dieu, il était peut-être là, mais c'était très très vague, très flou. Et dans tous les cas, c'était très déconnecté de ma vie, quoi. Mais bon, ok, pourquoi pas, Dieu existe. Arrivé à l'adolescence, je dirais que j'ai vécu une adolescence douloureuse. Alors, ce qui s'est passé, en fait, c'était tout intérieur. Finalement, j'avais pas des problèmes qui se voyaient à l'extérieur, mais intérieurement, j'ai vécu, je dirais, une crise parce que j'ai réalisé que, en fait, j'étais ni vraiment français ni vraiment vietnamien. J'étais un peu des deux, ou en fait, j'étais ni l'un ni l'autre. Et ça a été une réalisation très dure pour moi. Et il y a quelque chose dans mon cœur qui a grandi de me dire, mais finalement, t'es quitté sur Terre. T'es pas légitime. Et il y a un mensonge comme ça qui a grandi en moi de dire, finalement, j'ai pas ma place dans cette vie-là. Et je serai jamais vraiment accepté, que ce soit en France ou au Vietnam. Alors, ça a vraiment créé en moi quelque chose une tension et puis une fissure, en fait. Dans mon être. J'avais 12 ans quand j'ai entendu pour la première fois l'évangile et ça m'a bouleversé. Parce qu'on m'a dit, en gros, écoute, Dieu t'a créé, et Dieu t'aime comme un père. Et Dieu, en fait, il est ton père. Et ça m'a bouleversé parce que là, c'est comme si je trouvais un sens à ma vie et aussi à mon existence. J'ai trouvé une légitimité dans ces paroles de me dire finalement j'ai une place sur Terre parce que c'est Dieu qui me l'a donnée. Et même si je serai jamais peut-être pleinement vietnamien ou pleinement français, mais j'ai pleinement ma place là où je suis parce que c'est Dieu qui me la donne. Alors, bah, cette révélation-là m'a bouleversé. Et j'ai vraiment été touché profondément par l'amour de Dieu qui s'est révélé à moi à ce moment-là comme un père. Mais en même temps que cette révélation d'un amour immense, merci, eh bien j'ai reçu aussi j'ai compris qu'en même temps que j'étais aimé énormément par ce Dieu-là, il y avait un problème. J'ai pris conscience qu'il y avait un problème. Et ce problème, c'était que j'étais un peu séparé de Dieu. Et j'ai pris conscience que ben, y a des choses qu'on fait qui sont pas bonnes aux yeux de Dieu et qui créent une séparation. Comme quand on fait un truc à son frère, par exemple, et on sait que ça lui fait du mal ou qu'il n'aime pas. Et du coup, il y a quelque chose qui se met dans notre relation. Et là, j'ai pris conscience de ma séparation avec Dieu, de ce qu'on appelle en fait dans la Bible le péché. C'est-à-dire simplement de ne pas faire ce que Dieu voudrait qu'on fasse. C'est un peu plus en fait que faire le mal. C'est faire des choses que Dieu ne veut pas qu'on fasse. Et je suis entré dans une période que j'appellerais de résistance pendant 7 ans, de 12 ans à 19 ans. En moi, il y avait une soif de Dieu, il y avait un immense désir d'être aimé de lui. J'avais goûté à son amour d'une manière tellement puissante, et en même temps, grandissait en moi une conviction de péché. Une conviction qui est un problème fondamental de ma vie qui fait que je ne peux pas marcher avec Dieu. Et puis, entre 12 ans et 19 ans, on a envie de vivre, on a envie de profiter de la vie et de faire toutes les choses qui s'ouvrent à nous à cet âge-là. Et notamment, on est attiré par des choses dont on sait pertinemment que Dieu n'approuvera pas. Et donc, je voulais profiter de cette vie, mais je ne pouvais pas. Parce que l'amour de Dieu m'avait tellement touché que je ne pouvais pas oublier ça. Et dans un sens, ça a gâché ma jeunesse. Parce que je ne pouvais pas m'amuser aussi librement avec cette insouciance, parce que je savais que derrière, il y avait quelqu'un qui m'aimait et qui pleurait de voir ce que je voulais faire. Alors, pendant 7 ans, j'ai vécu ma vie. Et puis, il y a eu un vide, une absence de paix qui grandissait. Une conviction... J'étais sale à l'intérieur qui grandissait, et une conviction qui ne me lâchait pas d'un amour pour moi immense. Je ne pouvais pas oublier ça. Et puis un jour, j'ai été invité, peut-être comme vous ce matin, dans une église. Et dans cet état, tiraillé. Et puis, c'était la louange, les chants, tout ça. Et je pleurais. Et je ne pouvais pas m'empêcher de pleurer. Et ma mère me dit, je dis à ma mère, pourquoi je pleure ? Et ma mère me dit, c'est Dieu qui te touche. Je pleurais, mais ce n'est pas pour autant que je voulais revenir à l'église après. Et puis à la fin de l'église, il y a une femme qui est venue vers moi, qui a dit, est-ce que je peux te parler un moment ? Et puis on s'est assis sur une chaise. Et puis de but en blanc, comme ça, directement, elle m'a dit, Toine, est-ce que tu veux donner ta vie à Jésus ? Et en fait, cette question, c'est comme si je l'avais attendue pendant 7 ans. Et à ce moment-là, cette partie de moi qui désirait cet amour a pu prendre le dessus et j'ai dit oui. Oui, je veux ça. Oui, je veux ça. Et à ce moment-là, j'ai compris la croix. Chose que je n'avais pas compris avant. J'avais compris l'amour de Dieu, l'amour du Père, mais la croix, je n'avais pas compris. Et j'ai vu Jésus-Christ à la croix qui avait pris sur lui toute la colère qui m'était destinée à cause de mes fautes. Je n'étais pas quelqu'un qui faisait des choses très mauvaises et tout. J'étais quelqu'un d'assez sage, quoi, assez sympa dans la vie. Mais intimement, je savais que aux yeux de Dieu qui était saint, c'était grave. Et j'ai compris que Jésus-Christ, en fait, il a tout pris sur lui afin que moi, je puisse être en paix avec Dieu et ne plus être séparé avec ce Père. Et j'ai vécu quelque chose de radical. C'est que je me suis senti en paix immédiatement. Cette paix que je cherchais pendant 7 ans, je l'ai trouvée. Et c'est une paix qui m'a jamais quitté depuis. C'est une paix puissante, profonde, qui est au-delà en fait des émotions, des sentiments, des coups dans la vie. C'est une paix qui est toujours là et qui ne m'a jamais quitté. Et je pourrais dire, si j'utilisais des images, que je suis passé d'une nuit froide à de la lumière et à de la chaleur. Je suis passé du vide intérieur à de la plénitude et d'une absence de paix à une paix profonde. Et je voulais donner une image ce matin pour Dieu, si tu pouvais projeter la photo, Florence, s'il te plaît. C'est l'image du soleil. Le soleil, on peut penser qu'il n'existe pas, parce qu'on ne le voit pas. Mon épouse vient de Berlin. Quand on va à Berlin à Noël, et j'ai vécu, c'est vrai, hein, avec l'avion, quand on descend pour atterrir, on traverse la couche nuageuse, et pendant tout le séjour, vous ne revoyez plus le soleil. Parce qu'il y a une couche grise au-dessus de Berlin, qui est assez impressionnante. On peut croire que Dieu n'existe pas parce qu'on ne le voit pas, comme le soleil. Aussi, on peut croire qu'il existe, mais il est très 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 loin, vraiment super loin, tellement loin que finalement on ne le regarde pas, on ne fait pas attention à lui, on l'ignore. Et puis surtout, on ne connaît rien finalement de sa lumière ni de sa chaleur. J'aime beaucoup la randonnée, et avec mon épouse, quand on avait le temps, il fut un temps, on randonnait dès qu'on pouvait. Et un moment beau de la randonnée, c'est le soir, quand on a bien marché, et de s'arrêter et de regarder le coucher de soleil. Alors nous, on n'était pas du style à se lever tôt pour regarder le lever de soleil, mais plutôt le coucher de soleil. C'est donc cette photo, cette image. Et vous savez, le soleil, c'est une image que les chrétiens, dès les premiers siècles du christianisme, ont utilisée pour Dieu. Parce que le soleil peut nous parler de Dieu dans ses trois personnes. Il peut être à la fois Dieu le Père qui est toujours là, qui préside au monde et qui est à la fois inaccessible, à la fois majestueux. Il n'y a rien de plus grand, rien de plus haut. Il est là. Et le soleil est généreux. Le soleil est ultra puissant. Une image pour Dieu le Père. Mais le soleil envoie sa lumière. Vous savez que rien ne va plus vite que la lumière. 300 000 mètres secondes, c'est pas mal. Et rien ne va plus vite que la lumière. Cette lumière qui vient d'un astre très très loin vient jusqu'à nous, jusqu'à la Terre. Et c'est une bonne image pour Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est celui qui est venu de Dieu jusqu'à nous, jusqu'à la Terre, à tel point qu'il est venu dans un corps de chair, être humain, et puis il a révélé Dieu, il a parlé de Dieu. Et puis, la lumière répand la chaleur. Et c'est une image bonne pour le Saint-Esprit, cette troisième personne de la Trinité. La chaleur, en fait, on l'expérimente. On peut connaître la chaleur théoriquement, ça ne sert à rien. Grelotter de froid et puis dire « Ah oui, il doit exister quelque chose qui... » Mais expérimenter la chaleur, ça procure un bien-être. Et c'est vraiment une bonne image pour le Saint-Esprit. De goûter cette présence, cet amour qui nous touche, qui nous fait parfois frissonner, qui va jusque dans nos émotions, ça, c'est le Saint-Esprit. Il y a un verset qui dit « L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Et c'est vraiment une promesse de Dieu, en fait, que à tous ceux qui s'approchent de Dieu et qui font confiance en Jésus-Christ, le Saint-Esprit leur est donné. Il n'y a pas besoin d'être super chrétien, d'être sans péché, tout ça. C'est croire en Jésus-Christ qui fait que le Saint-Esprit vient habiter en nous. Et ça, c'est merveilleux. C'est miraculeux. Alors, je dirais qu'en Dieu, j'ai trouvé vraiment un soleil dans ma vie. Et à partir du moment où j'ai décidé de le suivre, eh bien, il y a comme un soleil qui est venu en moi. Et j'ai cette présence qui me donne une paix profonde et un sens à ma vie tous les jours. Alors j'ai marché avec Dieu, avec joie. Vous savez, le salut, c'est pas juste un moment dans sa vie. Le salut, c'est un chemin. C'est Dieu qui nous place sur un chemin qui va de cette vie jusqu'à l'éternité. C'est un chemin qui est beau parce qu'il est là, mais c'est un chemin où parfois il y a des moments ça monte, des moments ça descend. Et puis être chrétien, c'est pas être quelqu'un soustrait aux difficultés de la vie. On reste des gens normaux, on vit comme tout le monde les joies et les peines. Et la deuxième, le deuxième moment de ma vie que je voulais vous partager, c'était plutôt un moment où ma vie s'est remplie de nuages. Et il y a une deuxième photo, Florence. Voilà. Où ma vie était un peu ça, en fait. Il y a 3 ans, j'ai vécu un moment difficile, que je pourrais appeler crise, tempête. C'est un de ces moments dans la vie qui nous marque, en fait. Je pense qu'il marquera toute ma vie. Pour vous expliquer rapidement, j'avais un projet pour ma vie, celui de devenir pasteur. Et j'avais imaginé tout un scénario. Et j'avais investi pour ce scénario, 10 ans de ma vie. J'avais fait des choix, et je savais que ces choix ils étaient risqués parfois, et j'ai vraiment investi, parce que j'aimais tellement Dieu, je voulais vivre pour lui à 100%, et vraiment, j'ai investi. Et puis, j'arrive à Montpellier, et ce projet devait aboutir à Montpellier. Et puis, à Montpellier, ben, ce projet il s'est effondré, brutalement. Et là, je me suis retrouvé à 40 ans, sans travail, sans métier, sans perspective, sans plus de perspective, avec ce sentiment de repartir à zéro, de devoir chercher un travail, refaire un CV, passer des entretiens, voilà, tout le truc. Et quand on a une perspective dans laquelle on est motivé pendant 10 ans, puis d'un coup, elle disparaît, c'est brutal. Et en fait, ça a fait un impact tellement fort dans ma vie que je suis entré dans une période de déprime et même de dépression. J'ai été d'un coup submergé par des émotions et je me sentais intérieurement profondément trahi. J'avais une colère mais immense et un sentiment d'injustice qui débordait, quoi. Donc les émotions m'ont envahi. Et qu'on soit chrétien ou pas, on peut vivre, alors je ne souhaite pas, mais ben, la vie c'est comme ça. On peut vivre ces moments-là pour plusieurs différentes raisons. Ça peut être un divorce, ça peut être rupture, ça peut être un emploi, perte d'emploi ou perte d'un être cher. Enfin, plein de moments comme ça qui déclenchent des tempêtes dans nos vies. Alors, à ce moment-là, j'ai fait un peu comme Job. Si vous connaissez le livre de Job, un homme à qui Dieu permet que le diable vienne et retire plein de choses. Et Job est dans une telle souffrance qu'il crie à Dieu. Et il crie pas seulement pour être secouru, mais il crie aussi tout son désespoir et il se lâche, quoi. Et moi, j'ai vécu ça avec Dieu. Ce cri de désespoir à Dieu où je lui ai dit, avec respect en même temps, parce que je l'aimais, je croyais en lui, mais je suis allé jusqu'au point de lui dire, mais écoute, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce que tu fais avec ma vie, là? Je t'ai donné 10 ans de ma vie, j'ai investi 10 ans pour toi, et tu permets ça. Et mais j'étais tellement écœuré, et j'ai crié à lui. Dans un sens, je lui ai dit ces 4 vérités. Et je savais que je pouvais le faire, en fait. Parce qu'en moi, il y avait cette confiance que Dieu me permettait de faire ça. Je crois que Dieu, il préfère des gens authentiques plutôt que des gens religieux à l'extérieur, mais complètement froids à l'intérieur. Il veut des gens authentiques. Et je savais que je pouvais l'être. J'ai 2 filles, et ma petite fille, elle a un côté un peu comme sa maman. Mon épouse est allemande, mais en fait, je me dis, elle doit être un peu italienne quand même. Un côté un peu chaud, là. Et ma fille est très sensible à l'injustice. Et parfois, quand elle trouve une situation injuste, elle peut rentrer dans des colères très fortes. Et ben là, moi, je suis le papa et je dois gérer ma petite fille qui pète un câble. Et même dans ces moments-là, ma fille peut même dépasser les limites. Et moi, je suis là en tant que papa et j'essaie de gérer, de calmer. Et vous savez ce que je ressens dans ces moments-là? c'est de l'amour pour ma fille. Elle est là, elle peut peut-être me crier dessus, peut-être faire des choses qu'on ne doit pas faire en tant qu'enfant. Mais le fait que moi je la connaisse, le fait de savoir qu'elle est si sensible à l'injustice et qu'elle est touchée, que du coup elle devient déraisonnable, ma seule réponse en moi que j'ai dans ces moments-là, c'est je l'aime. Et je trouve des moyens pour sortir, pour l'aider à sortir de cette colère-là. Pendant cette période sombre comme ça de ma vie, Dieu a pris soin de moi. Et je savais intimement qu'il était là. Pourtant, il y avait que des nuages. Je ne voyais plus Dieu dans ma vie. Mais c'est bizarre, hein. Je savais qu'il était là. Je ne chantais pas son amour. J'étais tellement en colère. Mais je savais qu'il était là. Je savais qu'il m'aimait, même si je ne le ressentais pas. Et puis, parfois, Dieu me faisait des clins d'œil. Je me rappelle un jour, je cherchais un endroit dans la nature pour prier, parce que c'est mon mode, en fait. Quand je ne vais pas bien, je pars dans la nature, et puis je cherche un endroit où je suis seul, et là, je trouve Dieu. Et j'étais tellement désespéré, je cherchais un endroit, en plus, je ne trouvais pas, ça m'agaçait profondément. Et puis, j'arrive au bout du monde, c'est dans les Cévennes, et je trouve un chemin, et je m'engage dans ce chemin. Et à ma droite, il y a une borne en pierre, une vieille pierre, un peu tordue. Et dessus, c'était écrit « Dieu est amour ». Et là, c'est comme un rayon de soleil qui perce les nuages. Et Dieu me disait « Mais je suis là. Et je t'aime. » Alors, vous savez, ces moments, ça fait du bien. Il y a un verset qui dit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Dieu a pris soin de moi dans cette période. Il a pris soin de mon couple, parce que franchement, j'étais pas marrant à vivre à cette époque-là, et il a donné à mon épouse un amour et une force qui fait que mon couple allait bien, et nous allons bien. Il a pourvu à nos besoins financiers, toujours d'une manière un peu rocambolesque, pas comme j'aurais aimé, mais au final, les comptes étaient là. Mes enfants ont réussi pendant cette période. Scolairement, elle brille. Il n'y a pas eu cet impact. Et puis, j'ai même trouvé un travail. Alors, je me sentais dans une telle impasse. Pour moi, c'était impossible. Et j'ai trouvé un travail, mais passionnant. Un truc qui m'a rempli de joie et de perspective. Dieu avait fait table rase de mes projets. Et en même temps, il plantait en fait des éléments pour l'avenir. Dieu prenait soin de moi, mais moi j'étais tellement écœuré que je ne le voyais pas vraiment et que je ne l'appréciais pas vraiment. Pour ceux qui connaissent mon épouse, elle est très enthousiaste. Mon épouse, elle est pleine de... Alors quand il y avait quelque chose qui se passait de bien, elle disait « Ouais, t'as vu, c'est super et tout !» Et moi, douche froide, quoi. Parce que j'arrivais même pas à être reconnaissant envers Dieu. En fait, mon vrai problème, il était ailleurs. Mais Dieu était patient et à un moment, j'ai réalisé que je commençais à douter de l'amour de Dieu pour moi. J'ai réalisé ça. Et quand j'ai compris ça, là, je me suis dit, là, t'arrives à un moment ultime de la foi. Vous savez, quand on tire l'élastique, puis on sent que là, on arrive au moment où il va casser l'élastique. Et ma foi, elle était tellement étirée. Et là, je me suis dit, là, il faut que je me pose et que je fasse un choix. Alors, je me suis posé et je me suis dit, est-ce que tu veux continuer à croire en Dieu ou pas? C'était un moment ultime pour moi. Et là, j'ai fait le point sur ma vie et je me suis dit, je ne comprends pas ma vie, je ne comprends pas ce qui se passe, je ne comprends plus Dieu, je ne comprends plus ce qu'il m'a dit, je ne comprends plus rien, vraiment le néant. Mais une chose que je sais, c'est que cet amour que j'ai goûté, c'était authentique. Cet amour que j'ai ressenti à 12 ans et les années qui ont suivi, c'était authentique. Cette expérience-là, ce n'était pas une illusion. Ce n'était pas la méthode Coué, ce n'était pas le truc où on se monte le bourrichon, comme tu disais Sylvie. Non, c'est authentique. Cet amour si puissant qui fait qu'on change sa vie, c'était vrai. Alors, eh ben, j'ai fait ce choix de croire en son amour. Et en fait, en faisant ça, ça a basculé dans ma tête, ça a basculé dans mon cœur. Parce que c'est comme si je retrouvais les bras de mon père. C'est comme si je pouvais dire à Dieu, écoute, je ne comprends plus, mais une chose que je sais, c'est que tu m'aimes comme un père. Et je suis revenu à Dieu intérieurement, comme cela. Et c'est une confiance qui est revenue. J'ai focalisé mon regard, en fait, sur l'amour de Dieu pour moi. Et cette confiance en Dieu a débloqué ma compréhension. C'est après que j'ai pu comprendre, finalement, pourquoi Dieu avait permis ce scénario-là. Et c'est après que j'ai pu accepter le chemin par lequel Dieu m'avait conduit. Parce qu'en fait, ce que je témoigne là, je reconnais aujourd'hui que c'était vraiment un chemin de Dieu. Et ce qui s'est passé, en fait, profondément, intérieurement, c'est qu'à travers cet épisode, Dieu, il a touché et il a soigné une blessure profonde de ma vie que je résumerai en une question. C'est qui suis-je ? Cette question qui avait déjà commencé à fissurer mon adolescence, où finalement c'était mon identité. Qui suis-je ? Et finalement, à travers ma vie, j'essayais de répondre à cette question en me disant ben, « je serai ceci, je serai cela ». Et Dieu, il a tout enlevé. Et quand je suis arrivé à ce stade de dire « mais je suis rien ». Un jour, j'étais en Allemagne, j'étais dans un champ et il y avait mon épouse avec moi. Et j'allais tellement mal. Et là, je lui ai dit, j'ai crié, c'est un cri du cœur. Je lui ai dit, je ne suis rien. Et pour moi, ça m'est resté. C'était révélateur. C'était comme je me voyais. À mes yeux, je n'étais rien. Parce que par mes choix que j'avais faits, j'ai pas de CV, j'ai pas de retraite, j'ai pas de... Vous savez, j'ai fait des choix pour Dieu. Du coup, ça a des conséquences. Et vis-à-vis de ce monde, quand je me pointe vers un banquier, j'ai l'impression d'être rien. Quand je me pointe devant un employeur et j'ai dû faire ça pour chercher un job, j'ai l'impression d'être rien. Et Dieu m'a amené exprès dans cette configuration-là pour que je puisse entendre. Et là, il me dit, tu es mon fils. Tu es mon fils. Et ça, ça fait tout. Alors, ce que je voudrais dire, pour terminer, c'est que quand Dieu vient dans notre vie, il fait vraiment ce qu'il dit. Dieu est le seul qui tient entièrement ses promesses. Il est vraiment ce soleil qui s'établit dans nos vies et qui éclaire notre vie. Et il est fidèle. Il ne cesse jamais de briller. Je crois qu'en tant que chrétien, on évite beaucoup de crises. Quand on suit Dieu, quand on l'écoute, il évite, nous évitons des pièges de la vie. Mais Dieu parfois permet quand même à des tempêtes de venir. Mais ces tempêtes ne sont jamais inutiles. Parce que ces tempêtes permettent à Dieu de toucher des choses profondes en nous que nous ne livrerions pas sans cela. C'est les mystères de Dieu. Mais à travers cet épisode de ma vie, j'ai vécu quelque chose de profondément guérissant. Et vous voyez, moi, j'étais focalisé sur une chose, mais finalement, Dieu a pourvu à tout le reste. Et il a fait une opération chirurgicale en moi. Alors, je voudrais simplement dire que cette image du soleil, elle est pour tout le monde. Et si vous n'avez pas ce soleil en vous, ce matin, vous pouvez l'avoir. Le salut, c'est gratuit. Ça ne demande pas d'être parfait. Ça demande de reconnaître, au contraire, qu'en vous, il n'y a rien qui puisse satisfaire Dieu. C'est simplement reconnaître que Dieu vous aime tellement que Jésus-Christ, il est allé à la croix pour que votre problème avec Dieu soit réglé. Ce n'est pas vous qui réglerez votre problème par votre piété, par venir à l'église, tout ça. C'est Dieu qui le règle pour vous. Et de comprendre cela, c'est ça, devenir chrétien, d'accepter cela. Alors je voudrais terminer par un appel. Et j'étais Content que je suis arrivé en retard à l'église, mais juste quand je suis arrivé, il y avait ce chant Yahweh, Yahweh, tu brilles comme un soleil sur ma vie. Et je trouverais bien que ce chant soit repris, si c'est possible. Mais je voudrais inviter tous ceux qui aimeraient que ce soleil brille dans leur vie de venir et on va prier pour vous, pour que cela se fasse. Et puis je voudrais aussi inviter tous ceux qui ont peut-être des nuages, comme ces nuages-là, à venir pour que on puisse prier pour que vous receviez ce courage de marcher avec foi et de traverser cette période. Si tu pouvais donner la dernière photo, Florence. En fait, nous, on voit nos nuages quand on est en bas. Mais au-dessus, le soleil ne cesse de briller. Au-dessus des nuages. Et Dieu est très puissant pour aussi ôter ces nuages de nos vies. Voilà, je vais prier. Le chant va se lancer et puis je vous invite, si vous voulez recevoir la prière, à vous approcher. Seigneur, merci parce que tu es un Dieu étonnant. Ton amour est étonnant. Ta grâce est étonnante. Tu vas au-delà de ce qu'on imagine. Tu es encore bien plus grand que ce qu'on imagine. Je te loue parce que tu as une solution pour chacun de nos problèmes. Je te loue parce que tu connais nos cœurs intimement. Tu connais nos réels besoins. Et je prie ce matin, c'est que tu te déverses et que tu visites nos cœurs, à nous tous qui sommes dans cette salle. Et que tu puisses visiter, remplir et parler. Je prie que tu viennes déverser une consolation, que tu viennes déverser un courage, que tu viennes relever ceux qui sont fatigués, ceux qui sont chargés. Je prie que tu aides tous ceux qui ont besoin de cette paix en Jésus-Christ à venir prendre cette paix que tu offres gratuitement. Seigneur, je te remercie parce que tu es Dieu et nul n'est comme toi. Et tu as choisi de nous aimer. Seigneur, tu es grand. Merci. Merci, Saint-Esprit. Viens maintenant. Visite nos cœurs, Saint-Esprit. Répands la chaleur, répands l'amour. Visite, convainc, révèle, ouvre les yeux, Saint-Esprit.